Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver pour votre émission Yafa Soir, programme du studio Yafa diffusé du lundi au vendredi sur les ondes de nos radios partenaires. Ce mercredi, nous vous proposons un sujet sur le tourisme agricole initié par Richard Monet. L'agro-businessman a organisé une visite spéciale de sa ferme agroécologique. On en parle dans quelques instants. Et dans la suite de cette émission, il sera question de la folle rumeur sur une agression mortelle d'un Ivoirien au Sénégal par des Dakarois mécontents de la défaite de leur équipe le 29 janvier dernier face à la Côte d'Ivoire. Bienvenue à toutes et à tous à ce numéro. À la présentation, je suis Daniel Ouedraogo.
Terre à terre.
Le tourisme agricole, trouvaille de Richard Monet pour ouvrir et faire visiter sa ferme agroécologique par le public, particulièrement des agro-businessmen. Plus d'une centaine de touristes ont répondu présents à l'activité ce 27 janvier en raison du modèle de réussite basé sur l'intelligence agricole. Immersion dans cette ferme agroécologique avec Daniel Koulibaly.
Cadre ombragé, climat frais, sol irrigué et couvert de litière de poulailler, nous sommes dans un verger de 800 pieds de papayer. La hauteur de ces plants avoisine 4 mètres. De grosses papayes presque mûres, de forme ovale ou arrondie, mettent l'eau à la bouche.
Il y a des grosses papayes, il y a des petites, il y a des moyennes, etc. Et toutes les papayes sont très succulentes.
Nous sommes dans la ferme de la famille Monet à Lumbila, à 23 km de Ouagadougou. Ce samedi 27 janvier 2024, plus d'une centaine de touristes agricoles, dont une bonne partie des agro-businessmen, venus s'inspirer du modèle de Richard Monet, ingénieur du développement rural, option agronomie et spécialiste en hydraulique des systèmes irrigués.
S'il vous plaît, ne piétinez pas les tuyaux. On a estimé que l'aspersion était la meilleure technique. Parce que ça asperge en fait toute la surface, ça permet à toutes les racines de pouvoir puiser de l'eau. Et en plus de ça, on a couvert le sol avec la litière de poulailler. C'est en même temps un fertilisant. Et deuxième chose, ça permet de garder l'humidité. Troisième, ça réduit l'enherbement.
Dans cette ferme agroécologique de 3 hectares, l'élevage de chèvres rousses, de volailles, l'apiculture et l'agriculture sont pratiqués de façon intelligente. Un rideau de plantes fourragères appelé maralfalfa sépare la plantation de papayers et les autres cultures. Le maralfalfa est considéré comme de l'or pour les éleveurs, assure Richard Monet, le promoteur de la ferme.
Voici une haie de maralfalfa. La plante fourragère qui a un très grand potentiel. Moi, je l'appelle l'or vert des éleveurs. Parce que si vous avez un hectare de cette plante-là, par récolte, vous pouvez récolter jusqu'à 500 tonnes de fourrage sur un hectare. Chaque 2 mois, vous pouvez récolter si vous avez l'irrigation. Ça, c'est une plante miracle qui traite l'hypertension artérielle, le diabète et puis le cancer. Noni.
Derrière le rideau de maralfalfa, les touristes du jour découvrent une bonne physionomie des champs d'ail, de haricots verts et de gombo disposés de part et d'autre. Irrigation au laser spray, paillage du sol, fumure organique et biopesticides sont les technologies utilisées dans les champs. À cette étape, chaque touriste est entièrement désinfecté pour éviter les germes dans le poulailler situé à quelques pas du champ de gombo. Plus d'une dizaine de plaques jaunes de la taille d'une feuille A4 sont accrochées à des piquets dans le champ de gombo. Sur ces plaques, des insectes de tout genre ont trouvé la mort.
On a placé ça rien que hier. Dans 2-3 jours, si vous venez, la surface sera couverte de beaucoup d'insectes. Alors, il y a des insectes qui sont spécifiques au gombo. Les insectes blancs, verts, un petit là. Ça, c'est une peste pour le gombo. Quand ça prend le gombo, les feuilles se recroquevillent, ça décolore les feuilles et vous perdez en rendement. Donc, avec le piège à insectes, la couleur les attire, ils viennent, ils se posent dessus et en même temps, alhamdoulilah, c'est leur cimetière.
Dans la section volaille, des pièges à insectes ont également été fixés pour protéger près de 2000 gros coqs et poules pondeuses. Les œufs des poules sont stockés dans des couveuses made in Burkina.
Ça, c'est la couveuse. Donc, quand on met les œufs, à partir de 18 jours, on fait ce qu'on appelle, c'est une échographie en fait, le mirage. On regarde, on écarte les œufs qui ne sont pas fécondés. Les œufs fécondés partent à l'éclosoir pour poursuivre et à partir du 21e jour, on a les poussins qu'on vend. Ça fonctionne avec l'énergie solaire et le gaz. La
capacité qu'elles ont là, si on devrait utiliser l'électricité, peut-être par mois, c'est 100 000 à 200 000 francs de courant qu'il faut. Donc vous voyez l'économie que ça fait. Mais le problème, c'est son coût d'acquisition est quand même élevé. Ça vaut combien ? Les deux là, c'est 13 000.
Mais ça peut contenir combien de
6 000 œufs ici, là-bas 2 000.
Après une journée de découverte, les touristes venus s'inspirer de la ferme agroécologique de Richard Monet se disent satisfaits. Saturne Nezigani, un visiteur.
Ça permet aux précurseurs, particulièrement ceux qui veulent se lancer dans l'activité agricole, de bénéficier de l'expérience des devanciers. Et aussi ici, comme on le voit, c'est une ferme intégrée où il a intégré plusieurs approches agricoles, passant par le paillage et aussi une multitude de cultures additionnées par le système d'irrigation par aspersion. Aussi, il a additionné les cultures fruitières, dont les papayers, et il ne se limite pas à l'ail. Donc, c'est quelque chose de très important parce que c'est la transformation qui tire vraiment la production.
Les touristes agricoles ont aussi eu droit à des conseils sur la gestion de leur business.
Le premier conseil que je donne, c'est d'aimer l'activité. C'est le seul ingrédient indispensable.
D'autres journées de tourisme agricole seront organisées dans le but de partager les bonnes pratiques agricoles au plus grand nombre de personnes, affirme Richard Monet.
Il faut partir sur l'exemple des exemples qui existent, qui inspirent.
IAFA VESGO, c'est la rubrique fact-checking du studio IAFA en collaboration avec FASOCHECK.
Après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au lion de la Teranga du Sénégal lors des huitièmes de finale de la CAN 2023, des rumeurs ont circulé sur la toile faisant croire qu'un étudiant ivoirien serait mort à la suite de violences de supporters sénégalais. Après vérification de FASOCHECK, il ressort qu'aucun ivoirien n'a été tué au cours des manifestations à Dakar. Des détails avec Jordan Meda.
Nous parlons encore de sport aujourd'hui. Comme vous le savez, les Lions de la Teranga ont été éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 après une défaite face à la Côte d'Ivoire. Par la suite, des scènes de violence ont été constatées à Dakar et une folle rumeur affirme qu'un Ivoirien a été tabassé à mort par des Dakarois mécontents de la défaite de leur équipe. Pour vérifier cela, nous recevons comme d'habitude FASOCHECK. Jordan Meda, dites-nous, ces heurts ont-ils vraiment provoqué la mort d'un Ivoirien à Dakar?
Bonjour Faisal. Effectivement, quelques incidents violents ont éclaté dans la nuit du 29 janvier 2024 à Dakar, après la défaite du Sénégal contre la Côte d'Ivoire en huitième de finale. C'est ainsi que, dans la foulée, une affiche attribuée à l'amicale des étudiants, élèves et stagiaires ivoiriens au Sénégal, qu'on appelle communément Amesis, a prétendu qu'un Ivoirien a été lynché à mort par des supporters sénégalais en colère. Mais après avoir examiné la page Facebook officielle de l'amicale en question, on constate que l'affiche qui annonce la mort de l'étudiant ivoirien n'y figure pas. Le 30 janvier à 2h58 du matin, c'est-à-dire quelques heures seulement après le match, l'Amesis a plutôt lancé un message d'alerte demandant aux étudiants ivoiriens à Dakar de rester à domicile parce qu'il y avait des tensions. Par la suite, FASOCHECK a retrouvé un communiqué de l'Amesis publié le même jour à 9h31, c'est-à-dire le 30 janvier. Et ce communiqué déclare qu'après investigation, aucun Ivoirien n'a été tué au cours des manifestations à Dakar. Et plus tard dans la journée, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar, toujours, a déclaré sur la chaîne ivoirienne RTI qu'il y a bien eu des tentatives isolées de séquestration d'étudiants par des supporters dakarois mécontents, mais qu'aucun décès d'Ivoirien n'a été enregistré à l'hôpital Fan de Dakar, comme mentionné sur la toile.
Comme quoi, il faut toujours se méfier de tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux.
Oui, Faisal, on le répète toujours et toujours, tout ce qui est sur le net n'est pas toujours net. Il faut toujours vérifier les infos que l'on voit sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'elles touchent à nos émotions, parce que les conséquences des fausses informations peuvent parfois être irréversibles.
Voilà donc qui est clair. Retenons que s'il y a vraiment eu des actes de violence à Dakar après le match opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, aucun décès n'a été enregistré comme veulent le faire croire des publications sur les réseaux sociaux. Merci donc Jordan Meda et à FASOCHECK pour ce fact-checking. N'oublions pas que la désinformation peut être partout. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, si vous avez affaire à des contenus qui vous semblent douteux, vous pouvez les soumettre pour vérification à FASOCHECK au 68 69 41 07.
C'était IAFA VESGO, la rubrique de fact-checking du studio IAFA en collaboration avec FASOCHECK.
Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce Yafa soir. On se dit au revoir avec Mister Léo du Cameroun qui nous chante « Vrais amis ».
Chaque jour et nuit, je suis reconnaissant de tout le monde dans ma life qui me donne la joie, qui me donne la paix du cœur. Dieu, je te remercie, tu m'as connecté à toutes ces belles, belles personnes qui me donnent la joie du cœur. La paix du cœur, j'ai dit salut à mes vrais amis. Wallow.